Je parle avec le micro et vous me dites si vous m'entendez au fond. Oui ou non? Ça va? Voilà. Alors, je pense que vous êtes convaincus que votre entrée en théologie va être un beau moment. En tout cas, vous allez vivre quelque chose, pas seulement le penser, le vivre. Voilà, c'est commencé. Bon, moi, je voudrais ajouter, hein, c'est pas vraiment un ajout, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de ce pourquoi certains sont venus, et puis qui est quand même beaucoup là, le texte biblique. L'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible, certains me disent, mais c'est fondamental. Oui, c'est fondamental. Alors, je ne vais pas l'ajouter. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est que dans la théologie et dans votre parcours de théologie, la Bible sera partout. Dans la présentation d'Aude tout à l'heure, vous avez vu qu'il n'y a pas de trimestre biblique. Ça existe dans d'autres formations. Il n'y a pas de trimestre biblique. La raison est simple. La Bible est disséminée partout. Chaque enseignant aura recours, évidemment, à la Bible. Et ce que je voudrais dire, c'est que la Bible n'est pas à côté dans la théologie. Elle est le terreau nourricier, ou un des terreaux nourriciers, pour moi, le plus important. C'est quand même la source. Vatican II dit que c'est l'âme de la théologie. Alors, source, âme, enfin, il y a des images. Mais pour dire que la Bible, elle diffuse à l'intérieur de la démarche théologique. Elle la nourrit, on y revient toujours et puis on en repart. Alors je boucle avec ce que Bernard vient de dire en terminant, en vous faisant faire un peu de grec. Donc la théologie, c'est une parole ou un discours, hein, un logos, une venue à l'expression sur Dieu, théos, théologie. Mais vous entendez souvent dire que la Bible, elle, est la parole de Dieu. Quand on a lu une lecture, parfois dans l'Assemblée, parce que c'est le moment où elle est relevée, cette lecture, par la parole, on dit « parole du Seigneur » ou « parole de Dieu ». Voilà. Dieu parle et les chrétiens croient que Jésus-Christ est parole. Il est, on dit, le logos, dit l'évangile de Jean. Il est la parole de Dieu. Bon, tout ça, c'est bien compliqué. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que Dieu se manifeste, Dieu parle. Enfin, il brille quand même, avouons-le, par son silence. Dans le fracas des armes partout dans le monde, la parole de Dieu, bon, il faut arriver à l'entendre. D'autant plus que ce que nous avons, c'est de l'écriture. La Bible, je ne l'ai pas apportée, mais c'est d'abord un livre. Elle n'est pas là-dessous. Souvent, elle sert de trépied ici pour porter quelque chose. Parce que c'est un gros livre. La Bible, c'est d'abord de l'écrit. Ici, un vieux manuscrit trouvé à Qumran, très très ancien, ou une Bible contemporaine, imprimée bien sûr. Donc la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire qu'à travers ces écrits que nous recevons et que nous relevons par la parole quand on les proclame dans l'Assemblée, à travers ces écrits, Dieu parle. Vous allez avoir tout un trimestre pour développer ça. Moi, je voudrais y entrer doucement en trois temps. Voilà, éclairer, monter en trois moments vers cette idée. D'abord, revenir sur l'idée que la Bible, c'est la bibliothèque d'un peuple. La bibliothèque d'un peuple. La Bible, c'est d'abord un gros livre, mais ce sont aussi 22 ou 50 fascicules. Une bibliothèque. Les peuples anciens, et d'ailleurs les peuples contemporains aussi, cherchent leur identité dans ce qu'on appelle aujourd'hui un grand récit. Il nous faut un grand récit. On entend tout le temps ça à la radio, un récit fondateur. On va chercher dans le passé quel est le grand homme, alors Clovis, Vercingétorix, je n'en sais rien moi, le grand homme qui a fondé, à partir de quand on peut parler de la France? Ça se dispute. Hein. Dans l'Antiquité, on allait chercher plutôt un ancêtre divinisé ou un dieu, ou des divinités. Or, le peuple d'Israël a procédé ainsi dans les millénaires avant Jésus-Christ. Il est allé essayer de fonder son identité en se retournant sur son passé et en accumulant des histoires, ce qu'on raconte à l'oral, et puis ça s'est mis par écrit parce que c'est ça qui nous arrive, progressivement toute une bibliothèque autour de ce qui peut fonder son identité et autour de « mais qui ?» est à la source de tout ça. Et donc la Bible, ce sont d'abord, et c'est ça que je voudrais affirmer, des paroles d'hommes, des témoignages recueillis et mis par écrit sous des formes littéraires diverses, des contes, des livres de sagesse, des livres de loi, des annales, il y en a dans la Bible, il y a des mythes, il y a des légendes. voilà, tous ces livres ont été écrits, réécrits, mis par écrit d'abord, écrits, réécrits, en quête de fonder l'identité de ce peuple. Ce sont donc d'abord des paroles humaines que nous abordons. C'est d'abord une bibliothèque dans laquelle nous allons trouver des témoignages d'hommes et de femmes, mais des témoignages d'hommes et de femmes à la recherche de cette identité dont je vais dire tout de suite dans un second temps qu'ils la trouvent dans leur Dieu et qu'ils essayent de faire résonner à travers leurs paroles et leurs écrits dans leur histoire quelque chose de ce Dieu. Ça va jusque-là ? Voilà. La Bible, ça va donc être des paroles d'hommes à travers lesquelles on écoute quelque chose de Dieu. Je m'insiste un peu sur ces paroles d'hommes. La Bible, c'est un réservoir incroyable d'expériences humaines, depuis les plus belles jusqu'aux pires. Bernard a parlé tout à l'heure du doute abyssal, vertigineux, quand tout s'effondre, mais il y est dans la Bible ce doute. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jérémie, le psalmiste, ils ont des moments de désespoir. Dieu se tait ou il parle trop. Il vous parle tellement qu'on en meurt. Voilà, ça y est, ce doute. Il y a des moments de pop louange dans la Bible, de joie extrême, les alléluia qui jaillissent dans les psaumes. Il y a des tas d'expériences humaines, il y a des turpitudes épouvantables, des abus sexuels, en veux-tu, en voilà, c'est indéniable. Il y a des choses magnifiques. C'est un réservoir d'expériences humaines qui prend tout et qui nous permet de nous appuyer sur cette expérience pour comprendre qu'à travers ces diverses expériences auxquelles s'ajoutent les nôtres, et qui viennent rejoindre les nôtres, et puis il y en a eu bien d'autres à travers l'histoire, on peut entendre quelque chose de la parole de Dieu ou de l'écho de ce Dieu. Voilà, ça c'est un premier temps. Deuxième temps, le peuple d'Israël a osé affirmer, dans ce travail, à travers son histoire de récupération de textes pour dire son identité, il a osé affirmer que plus il remonte, plus il trouve avant lui quelqu'un qui le précède, quelqu'un qui l'attend, qui l'a toujours attendu. Bernard disait déjà là, dans nos connexions intérieures, il y a déjà quelqu'un qui est là et Israël appelle ce quelqu'un son Dieu. Et il découvre que ce Dieu est avant lui, que c'est ce Dieu qui vient vers lui, et il ose même dire que ce Dieu est en quête de l'humanité, en quête d'un peuple. C'est Dieu qui vient à sa recherche, et que ce n'est pas lui qui est parti à la recherche de Dieu. Voilà. Dieu en quête de l'homme. Quelqu'un qui l'accompagne, qui lui propose son alliance, et ça, je crois que c'est une expérience extraordinaire qu'ont fait les auteurs de la Bible, que nous faisons en les lisant, et que nous faisons aussi dans nos vies. Cette expérience, on peut la résumer, bien sûr, ça n'est qu'une image, mais la Bible elle-même la résume dans le livre de la Genèse, dans l'histoire de Jacob, au chapitre 28. Alors, Jacob, vous savez, c'est ce fils d'Isaac qui a volé la bénédiction à son frère aîné. C'est moche. Il a volé la bénédiction, aidé de sa mère, ils ont joué de la cécité du vieil Isaac, peut-être du fait qu'il était un petit peu gâteux, et il a volé la bénédiction. Donc le frère est furieux et le poursuit, il y a de quoi. Et Jacob s'enfuit et il se couche un soir à un lieu qui est déjà un lieu plus ou moins sacré parce qu'il y a des divinités locales, la tête sur une pierre, nous dit le récit, et il fait un songe. Ici, vous avez la représentation extraordinaire par Chagall du songe de Jacob, avec une échelle qui part de la terre et qui va jusqu'au ciel. Le ciel est donc ouvert, ça veut dire que quelque chose de la transcendance se révèle à lui et des êtres divins, des anges, montent et descendent l'échelle. Une découverte au milieu de la nuit, un songe. Dans cette peinture de Chagall, pour moi le plus étonnant, c'est que Jacob, assis dans un coin, a la tête d'un serviteur souffrant. Jacob évoque, celui que nous appelons le serviteur souffrant, évoque Jésus. En tout cas, Jacob se réveille. Il se réveille et le matin, il dit « Oui, je comprends, le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas. » Et c'est ça l'expérience biblique. On se retourne sur le passé, historique ou personnel, et tout d'un coup, on se dit « Ah, le Seigneur était là. » et moi je ne le savais pas. Le Seigneur me cherchait et moi je ne le savais pas. C'est une expérience qu'on fait à certains moments de notre existence. J'espère que la théologie vous aidera à la faire. Le peuple d'Israël nous a donc découvert ce Dieu qu'il appelle unique, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus-Christ, qui est le Dieu que les chrétiens, à leur tour, cherchent et pensent avoir partiellement découvert. On monte la montagne vers lui. Qu'il nous a légué, et ça nous le devons au judaïsme. En même temps, quand on se met à dire que Dieu est là, que Dieu nous recherche, qu'on va à la rencontre de Dieu, on est tout de suite, Bernard l'a montré, entré en théologie, avec tout ce que nous sommes, ça a été dit. On entre en théologie et on se pose la question, mais qui est-il ce Dieu ? Alors, la Bible nous force à poser cette question, donc elle nous fait entrer en théologie, c'est ce que je veux vous montrer ce matin, et en même temps, elle va mettre des balises. Elle va sans arrêt nous rappeler à une certaine humilité, Bernard l'a fait tout à l'heure, la Bible le fait, en nous montrant que de Dieu, nous n'atteignons jamais que des points de vue partiels. Sur Dieu, on n'a jamais que des éclairages partiels. Nombreux, chacun a les siens, nous y participerons. Et les éclairages bibliques sont là pour nous rappeler toujours que notre point de vue, ce que nous comprenons de Dieu, et j'ajoute donc la théologie elle-même, est toujours en contexte. C'est toujours historiquement situé. Et les images de l'arc boutant étaient merveilleuses, mais la théologie du XIIIe siècle ne peut plus être la nôtre. Je suis désolée. Oui, on peut lire saint Thomas d'Aquin et y trouver grande richesse. Mais votre théologie, à vous, elle va être celle d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Vous allez la comprendre et l'exprimer autrement. Et c'est ça que la Bible nous dit sans arrêt. Ce sont des points de vue historiques, d'où des contradictions, d'où des images de Dieu qui sont parfois insupportables, qui sont parfois éblouissantes, mais il faut tout prendre. Dans la Bible, il y a le Dieu de la tribu, le Dieu vengeur, le Gott mit uns, on veut gagner contre l'ennemi, et on va se souvenir ensuite de la victoire, et on le prêche encore, on le lit encore dans la nuit de Noël, comme au jour de la victoire sur Madian, où on foulait le sang des ennemis. On passe vite sur le verset suivant, hein. Mais voilà, il y a un Dieu vengeur. Il y a aussi un Dieu jaloux, et jaloux parce qu'il aime, il aime trop, alors il est lourd. Il y a un Dieu amoureux, la plus belle image peut-être de ce Dieu amoureux, c'est un des plus anciens textes bibliques, le prophète Osée en 750 avant Jésus-Christ. Alors on dit parfois l'image de Dieu elle s'affine, mais non, elle dépend de votre situation. Si vous êtes en guerre, vous avez envie que Dieu soit avec vous. Si vous êtes Osée, l'homme délaissé par sa femme qui est partie ailleurs se prostituer, vous entendez Dieu vous dire « Reprends-la, parce que moi je reprends toujours mon peuple, infidèle, prostitué, adultère, et je le fiance à nouveau à moi, dans l'amour et la fidélité, etc. » Une image étonnante de Dieu. L'image d'un Dieu père, d'un Dieu mère, d'un Dieu qui écrit son peuple sur la paume de ses mains. Enfin voilà. Mais toujours un Dieu qui accompagne l'humanité, un Dieu avec nous. Alors, le rappel de nos limites humaines, toute théologie est en contexte, vous allez avoir la théologie du XXe siècle et chacun, j'allais dire, de l'Atlantique Nord, du lieu où nous sommes, même si on essaye de s'ouvrir au dialogue avec d'autres religions, il faut savoir qu'on reste dans certaines limites. Dieu se manifeste et se révèle à nous à notre petite mesure. Et c'est pour ça qu'il faut être plusieurs pour faire de la théologie. Parce que si vous êtes 40, eh bien, il y aura 40 petites mesures et ça va déjà faire une grande mesure. Que dans les groupes, il va y avoir 8 ou 10 petites mesures. Puis à mesure que la vie avance et que l'année avance, on change et on va ajouter une richesse à nos visages de Dieu. Je termine. J'ai dit au début, dans cette Bible, Israël a prétendu que Dieu nous parlait. Oui, Dieu nous parle, nous le croyons. Et les chrétiens croient que Dieu s'est fait parole et même que la parole s'est fait chair. C'est l'évangile de Jean. Que Dieu nous parle dans la chair corps vivant de cet être humain parmi nous sur les routes de Galilée, Jésus-Christ. Donc Dieu a parlé au creux de notre humanité, de l'humanité du Christ. Les chrétiens disent aussi volontiers qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est entièrement révélé, entre guillemets, et que la révélation est définitive. Alors, il faut s'entendre. Oui, Dieu s'est communiqué, comme on dit aujourd'hui, peut-être totalement à nous en Jésus-Christ, mais qui est capable de dire le tout de ce qu'est Jésus-Christ ? Ce sera le cours de Bernard au deuxième trimestre, et je pense que Bernard ne prétendra pas vous avoir tout dit. La question, là aussi, elle est plurielle, et chaque fois, on a un point de vue différent. Le Nouveau Testament ne nous raconte pas une vie de Jésus. Ah, des vies de Jésus, il y en a sur le marché. Hein. Vous pouvez en acheter, il y en a depuis plusieurs siècles. En veux-tu, en voilà. Elles sont passionnantes, je suis ferme. Elles sont toutes fausses. Elles sont toutes une part de vérité, elles sont toutes un éclairage. Mais le Nouveau Testament, lui, ne nous donne pas une vie de Jésus. Il nous donne 4 témoignages, 4 évangiles. Et il n'y en a pas qu'un seul. Ça a été condamné par l'Église au 3e, 4e siècle, un seul évangile. Vous savez, il y en avait un qui avait raccordé les 4 ensemble pour faire un seul évangile. On a dit non, il en faut 4 et 4 bien différents, 4 points de vue différents. Et puis on y ajoute les points de vue des premiers temps de l'Église, les actes des apôtres. Et puis on y ajoute le point de vue de Paul, les premiers écrits chrétiens, quand même, Paul, écrits avant que les évangiles soient mis par écrit. Voilà. L'éclairage de Paul, qui lui-même est riche et divers. Et puis d'autres lettres. Et puis finalement, il y a une apocalypse. Le mot veut dire révélation, qui révèle. Autrement dit, là aussi, on a un faisceau d'expériences, de témoignages. L'expérience de ses disciples qui ont vécu avec lui, qui l'ont vu mourir et qui ont fait cette rencontre éblouissante, indicible. Ils l'ont rencontré vivant et ils en témoignent. Et nous partageons ces interrogations. Jésus lui-même ne dit jamais qui il est, sauf dans un certain nombre de phrases de l'évangile de Jean, mais qui sont des métaphores. Je suis la porte, je suis la vérité, la vie. Est-ce que la vérité ? Jésus renvoie la question aux autres. À Pilate, il dit, c'est toi qui le dis au grand prêtre, tu l'as dit. Et à ses disciples, il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et il les laisse répondre, chacun à leur manière, et il vous laisse répondre, chacun à votre manière. Voilà, je conclue pour dire que finalement, la Bible est présente dans la théologie, non pas parce que nous venons l'interroger, mais parce que c'est elle qui vient sans cesse nous interroger. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Donc elle nous conduit à un travail de christologie, parole sur le Christ, une forme de théologie, parole sur Dieu. Elle nous conduit à essayer de répondre, chacun où nous sommes, chacun partiellement. Voilà, bonne entrée dans ce chemin de théologie. Et je m'arrête là.